Il est 5h.
On a des doses, mais on n'a pas assez de personnes éligibles pour se faire vacciner. Alors, on les a attendues très très longtemps, ces doses-là. Et puis maintenant, on va les avoir, mais on n'aura plus personne à vacciner.
C'est à s'en arracher les cheveux. La course à la vaccination bat son plein en France. Mais vous l'entendez, dans certains centres, eh bien, des places vacantes, des créneaux que personne ne prend. Au total, plus de 220 000 créneaux de vaccination sont disponibles. Vous avez sûrement déjà été appelé chez vous par un fournisseur d'énergie. Mais certains d'entre eux ont un démarchage ultra agressif au-delà du raisonnable, à tel point que le médiateur de l'énergie a saisi le procureur de la République pour dénoncer ces pratiques. C'est une première et c'est une information Europe 1. Et puis, l'anniversaire d'un livre mythique, American Psycho de Bret Easton Ellis, fête ses 30 ans et après le film, on aura droit à la série.
À suivre, votre journal des sports et notre pressing du matin. Et puis on sera en Ille-et-Vilaine pour les doigts dans l'assiette avec Charlotte Kerglonou, notre éleveuse laitière bio. Merci d'être à l'écoute. Très bon réveil. Vous êtes sur Europe 1.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et ce matin sur Europe 1, on pose une question. Ne serait-il pas temps d'ouvrir la vaccination à d'autres personnes? On pose cette question parce que plus de 220 000 créneaux de vaccination sont disponibles et même les listes d'attente commencent à se tarir.
Plus de 14 millions de personnes ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid. L'objectif des 20 millions de primo-vaccinés à la mi-mai sera tenu. Mais ça pourrait être plus si ces créneaux désertés trouvaient preneur.
Dans certains centres de vaccination, il y a de plus en plus de rendez-vous disponibles pour se faire vacciné, comme l'a constaté Jean-Gabriel Bourgeois au centre de vaccination de Vélizy-Villacoublay dans les Yvelines.
On a des doses, mais on n'a pas assez de personnes éligibles pour se faire vacciner.
Stéphanie Odéon gère le centre de vaccination pour la mairie.
Alors, on les a attendues très très longtemps, ces doses-là. Et puis maintenant, on va les avoir, mais on n'aura plus personne à vacciner. Donc, laissez-nous vacciner un maximum de gens sans restriction.
Il faut faire sauter le verrou du critère d'âge, réclame-t-elle, car la liste d'attente s'est aujourd'hui complètement réduite.
On a beau inciter les plus de 60 ans à s'inscrire dessus, on n'a plus personne.
Il n'y a même plus de délai pour prendre un rendez-vous. Atteinte de comorbidité, Corinne, 55 ans, vient de recevoir sa première injection.
J'ai vu qu'il y avait des horaires tout l'après-midi jusqu'à 17h, y compris le reste de la semaine. Donc je me suis inscrite ce midi pour cet après-midi, donc 16h, et voilà.
Il est temps d'élargir davantage la campagne vaccinale, se désole Jean-Paul en constatant les places disponibles.
C'est tout open, de 9h35 jusqu'à 17h20.
Mais à 47 ans, il est encore trop jeune pour être éligible à la vaccination et s'est donc fait éconduire.
Qu'on soit un peu plus souple et qu'on s'adapte, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont volontaires, qui ont envie de se faire vacciner, qu'on les vaccine s'il y a de la place, et a priori de la place, il y en a.
Il repart en soupirant de devoir encore attendre son tour.
Jean-Gabriel Bourgeois.
Et pendant ce temps, Emmanuel Macron continue de préparer le déconfinement. Hier, le président a réuni en visio son panel de maires pour discuter avec eux de la sortie, les prochaines étapes à venir.
Avec une question, dans quelle conditions va se dérouler ce déconfinement? Emmanuel Macron en a donc parlé hier soir avec des maires lors d'une réunion de 2h30. Jean-Rémy Baudeau, le scénario du déconfinement se dévoile petit à petit.
Oui, un scénario par étape esquissé par Emmanuel Macron hier soir. Le principal enseignement noté par les élus, c'est la volonté affichée par le président d'alléger le couvre-feu dès que possible, 19h jusqu'à la mi-mai, puis un peu plus tard jusqu'à l'été. La mi-mai qui devrait être un rendez-vous important pour annoncer justement 3 à 4 phases progressives de déconfinement selon un participant. La date du 12 mai est évoquée pour une série d'annonces de réouverture selon les territoires et les taux d'incidence. Emmanuel Macron qui a plaidé pour accélérer encore la vaccination, il s'est prononcé pour que les moins de 55 ans en surpoids puissent en bénéficier. Aucun calendrier, mais un conseiller confirme que c'est une piste de travail. De nouveaux éléments, mais rien d'officiel. L'Élysée use et abuse actuellement de ces petites séquences où le président distille des détails lors d'échanges informels. Emmanuel Macron pourrait-il prochainement préciser tout cela publiquement? Une élue présente hier pense avoir compris que le président projette une prise de parole d'ici à la fin de la semaine. Là encore, aucune confirmation de l'Élysée qui laisse plutôt entendre une allocution après le week-end.
Les précisions de Jean-Rémy Baudeau.
5h04 sur Europe 1, un projet de loi antiterroriste présenté ce matin en Conseil des ministres par Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti. Projet de loi préparé depuis plusieurs mois et qui a pour objectif de compléter deux lois déjà existantes.
La principale nouveauté de ce projet de loi, Gladys Laffitte, ce sont des dispositifs qui visent les condamnés pour terrorisme qui sortent de prison.
Exactement, des mesures qui pourraient concerner une centaine d'entre eux d'ici 2023, des personnes condamnées pour des faits de terrorisme à au moins 5 ans de prison. D'abord, la loi propose de pouvoir les surveiller pendant 2 ans après leur sortie de détention contre 1 an. Aujourd'hui, au niveau judiciaire, un juge pourra prononcer des obligations, celles de répondre à des convocations, d'une prise en charge sociale ou éducative par exemple, tout cela pendant 1 an, renouvelable jusqu'à 5 ans maximum. Tout manquement sera puni d'1 an de prison. Ce dispositif dispositif est destiné aux condamnés dont le niveau de dangerosité sera jugé particulièrement élevé à la fin de sa peine. C'est une commission pluridisciplinaire qui le déterminera après une évaluation. Alors ces mesures ne sont pas totalement nouvelles puisque ce dispositif avait été proposé par la majorité et censuré par le Conseil constitutionnel l'été dernier. Mais le ministère de la Justice l'assure, la philosophie du texte est cette fois-ci tournée vers la réinsertion et moins attentatoire aux libertés individuelles.
Gladys Laffice.
C'est une info qu'Europe 1 vous révèle ce matin. Le médiateur de l'énergie saisit le procureur de la République pour dénoncer les pratiques du groupe Eni.
Et ça, c'est une première. En cause, le démarchage abusif d'Eni, fournisseur d'énergie. Les explications de Maud Descamps du service économie d'Europe 1.
C'est le litige de trop qui a déclenché la colère du médiateur de l'énergie. Blandine, 98 ans, s'est vu réclamer la somme de 1314 euros pour facture impayée par le fournisseur Eni. Mais voilà, cette dame n'habite plus dans sa maison et surtout n'a jamais signé de contrat avec ce fournisseur, comme l'explique son neveu qui a contacté Eni pour tenter de résoudre le litige.
On me dit, mais oui, il y a eu un contrat de signé. J'ai dit, mais par qui ? À quelle date ? Alors on me donne une date, on me communique une adresse mail, un numéro de portable inconnu. Et là, il y a eu plusieurs échanges de mails avec l'ENI. Voilà, l'affaire a débuté comme ça.
Un cas qui n'est pas isolé. Rien qu'en 2020, 829 litiges avec ce fournisseur ont été rapportés au médiateur de l'énergie, Olivier Chaland-Belval.
Ils sont dans le double discours. Quand moi, je les interroge, ils me disent « on a fait une charte de comportement ». Quand on regarde, dès qu'il y a une affaire de démarchage frauduleux, comme par hasard, c'est ENI qui est derrière.
Contacté par Europe 1, ENI indique avoir porté plainte contre X. Le commercial à l'origine du contrat frauduleux est un prestataire extérieur, précise-t-on, chez le fournisseur d'énergie.
Maud Descamps.
Une centaine de salariés d'une fonderie Renault en Bretagne mise en vente ont retenu la direction pendant plusieurs heures hier pour demander leur maintien au sein du groupe.
Les salariés occupent d'ailleurs toujours ce matin la fonderie. Hier, 7 membres de la direction ont donc été retenus sans violence à l'intérieur de l'usine jusqu'en début de soirée. Premier acte d'un mouvement appelé à se durcir, Charles Guyard.
On va proposer à la direction de sortir puisque ils n'ont rien à faire là à cette heure-ci. Il sera mieux chez eux.
Il était 22h30 hier soir lorsque Nicolas Guillemette, délégué syndical de l'équipe de nuit des fonderies de Bretagne, est allé chercher les 7 membres de la direction pour les faire sortir du site dans lequel ils étaient comme confinés depuis 10h le matin.
Jamais l'idée était de les séquestrer. L'idée est qu'ils répondent à nos questions.
De fait, sous des applaudissements moqueurs d'une trentaine de salariés, Jean-Luc Bois, le directeur général, et 6 de ses collaborateurs ont ainsi pu quitter l'usine sans encombre et surtout sans un mot. La suite, désormais, c'est un site toujours verrouillé, des machines de nouveau à l'arrêt, conséquence du retrait annoncé récemment de Renault, alors que le constructeur s'était pourtant engagé l'été dernier, sous l'impulsion notamment de Jean-Yves Le Drian, à maintenir l'usine dans son giron industriel après déjà plusieurs jours de blocage.
Il est évident que Renault organise la mort du site en expatriant nos volumes à l'étranger, Turquie essentiellement, Roumanie et Espagne. Si ça doit être notre baroud d'honneur, je vous assure que tout le monde va s'en souvenir.
Une détermination qui, à 2 mois du scrutin, devrait très certainement s'inviter dans la campagne des élections régionales et départementales. Codant Charles Guyard, Europe 1.
On termine, Simon Rubin, avec un anniversaire, les 30 ans d'American Psycho, le best-seller mondial du romancier américain Bret Easton Ellis. Pour l'occasion, Simon, ce livre va être adapté en série télé.
Oui, livre qui raconte l'histoire de Patrick Bateman, sorte de Dr. Jekyll et Mr. Hyde des temps modernes ou post-modernes. Nicolas Caro.
Je m'appelle Patrick Bateman et j'ai 27 ans. Je prends grand soin de moi. En mangeant léger, et en faisant de l'exercice chaque jour.
Patrick Bateman n'aime rien ni personne à part lui-même, les costumes de marque, les cosmétiques rajeunissantes et l'argent, bien sûr. Le jour, il est un golden boy successful et méprisant de Wall Street, tiré à 4 épingles. La nuit, il enfile un tablier en plastique et devient un psychopathe sadique qui assassine à coups de hache.
Je risque d'avoir du mal à me contrôler si vous restez. Un grand malheur pourrait arriver.
Portrait d'une époque, description de la folie, de la vanité, dénonciation de la violence, des comportements en milieu privilégié, le roman et le film ont échappé de peu à la censure à l'époque. Ils bousculent et dérangent toujours autant aujourd'hui. C'est la marque des chefs-d'œuvre.
Je me sens au bord de la folie meurtrière. J'ai l'impression que ma santé mentale est sur le point de basculer.
Voilà, Nicolas Caro, et on fêtera American Psycho à 6h20 avec mon invité inattendu. Je vous donne juste un indice. On pourrait le considérer à bien des égards un peu comme le fils spirituel de Bret Easton Ellis. Rendez-vous dans 1h10. Merci Simon Rubin, c'était le journal de 5h. Il est 5h10. Axel May, le français mal aimé du Real Madrid, a encore frappé.
Oui, c'est un but de Karim Benzema, persona non grata en équipe de France, qui a permis au club madrilène d'égaliser hier soir face à Chelsea, un partout entre le club londonien et le Real de Zinedine Zidane pour cette demi-finale aller de la Ligue des Champions.
Ça a été un match très équilibré aujourd'hui. C'est vrai que notre première mi-temps n'a pas été des meilleurs, mais on a été beaucoup mieux en deuxième mi-temps. Le résultat est juste, car on a joué contre une très bonne équipe, très rapide. Ils sont très bons. Maintenant, on sait qu'on doit aller à Londres avec l'objectif d'inscrire des buts et de gagner le match.
L'entraîneur du Real Madrid, donc Zinedine Zidane, avec Henri de Laguiri, traduit par Christophe Charles. Le match retour aura lieu dans une semaine à Chelsea.
L'autre demi-finale, allez, évidemment, qu'attendent tous les supporters du Paris Saint-Germain, c'est ce soir.
Le Paris Saint-Germain de Pochettino défie Manchester City après avoir sorti le Barça et le Bayern.
On sait très bien qu'on va défier une très bonne équipe qui a travaillé très dur pour être là où elle en est aujourd'hui. Ils ont de super joueurs, un excellent entraîneur et un très bon staff. Bien sûr, on est confiant, on respecte notre adversaire, mais évidemment, ça va être un match totalement différent de celui de Barcelone ou du Bayern.
L'entraîneur du PSG avec Julien Froment. Et si Paris se méfie évidemment de Manchester City, le coach du club anglais, Pep Guardiola, se méfie, lui, de Kylian Mbappé.
C'est un jeune joueur qui a déjà gagné la Coupe du Monde. Il est très rapide, un joueur exceptionnel. Il a l'air d'être une très belle personne, d'après son ami Benjamin Mendy. Les joueurs comme Mbappé et Neymar, c'est bon pour le football. On va essayer de les battre.
Voilà, un journal des sports 100% interview qui ne sont pas en français. L'entraîneur de Manchester City avec Cyril de la Morinerie, qui avec Julien Froment mais aussi Lionel Rousseau vous feront vivre cette demi-finale de Ligue des Champions en intégralité Europe 1 Sport dès 20h.
Un dernier mot de football au féminin.
Du changement à la tête de l'Olympique Lyonnais, Jean-Luc Vasseur ne survit pas à l'élimination en quart de finale de la Ligue des Champions féminines par le PSG. Cette élimination, il est remplacé par Sonia Bonpastor, l'ancienne capitaine et actuelle directrice du centre de formation féminin de l'OL, a signé un contrat jusqu'en 2023.
En bref, dans le reste de l'actualité sportive, il y a aussi du basket.
Monaco, la Roca Team, comme on la surnomme, s'est imposée à domicile 89 à 87 dans les derniers instants hier soir contre Kazan. Le retour de cette finale, car c'est une finale de l'Eurocoupe de basket, aura lieu vendredi en Russie. Et puis, en handball, les Français se rapprochent un peu plus de l'Euro 2022 en janvier prochain. Victoire hier soir, large victoire en Grèce, 40 à 31 en match de qualification. Donc, si c'était en Grèce, vous l'aurez compris, c'était face à l'équipe grecque. Mickaël Guigou en a profité pour inscrire sur pénalty le 1000e but de sa carrière en bleu.
On peut parler de légende, je pense.
Ouais, il est le 4e français à atteindre ce chiffre record et tout rond après Frédéric Vol, Jérôme Fernandez et un certain Nicolas Karabatic.
Merci Axel, à tout à l'heure. Et on parie aussi sur les courses avec le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Théo, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Mort-de-Bretagne et mon pari gagnant sera le 405 Herbus du Ferron. Irréprochable depuis le début de sa carrière, n'ayant jamais terminé plus loin qu'à la 5e place en 12 tentatives, ce trotteur en constant progrès est aussi performant sur les parcours de vitesse que ceux de tenue, corde à droite ou corde à gauche. Maniable et sachant démarrer vite, le profil de l'hippodrome de Mort-de-Bretagne correspondra parfaitement bien à ses aptitudes. Dès lors, il devrait pouvoir justifier la confiance sans réserve affichée par son entourage. Notez bien, pour cet après-midi à Mort-de-Bretagne, réunion 1 dans la 4e course, le numéro 5, Herbus du Ferron.
Merci Thierry Léger, on vous retrouve dans 20 minutes pour les pronostics du Quintet.
Europe 1.
À 5h14, on ouvre dans un instant notre pressing, les histoires repérées pour vous dans la presse. Axel May, qu'est-ce qui vous a marqué ce matin ?
Eh bien, un article de Ouest France dédié au walking football, le football en marchant pour les plus de 50 ans.
On arrive, à tout de suite.
Vous informe sur Europe 1.
À 5h15, l'essentiel est ce projet de loi antiterroriste présenté en Conseil des ministres ce matin. Préparé depuis plusieurs mois, il doit renforcer les dispositifs de surveillance visant la centaine de condamnés pour terrorisme qui doivent sortir de prison dans les années à venir. L'aide internationale se déploie en Inde où l'épidémie de Covid fait de plus en plus de victimes. 350 000 nouvelles contaminations quotidiennes. On manque de place dans les crématoriums et de matériel également. À New Delhi, on en est même venu à brûler les corps sur des parkings, faute faute de solutions plus dignes. En France, le nombre de malades du Covid-19 hospitalisés en réanimation est repassé sous la barre des 6000. Le taux d'incidence poursuit sa décrue, 302 cas pour 100 000 habitants. Enfin, en football, le PSG reçoit ce soir Manchester City en demi-finale aller de la Ligue des Champions. Match exceptionnel à suivre dès 20h sur notre antenne.
Europe 1, Théo Manval.
Allez, c'est parti pour notre pressing du jour avec Axel May et Charlotte Barrican. Et on commence comme chaque matin avec la une de vos journaux et la nuit des étoiles en première page du Parisien qui se réjouit, cliché de sa constellation de stars à l'appui, que le PSG puisse enfin compter sur tous ses joueurs phares ce soir pour cette demi-finale. C'est assez rare pour être signalé. En effet, Mbappé, Neymar, Di Maria, Verratti, tous seront là pour défier Manchester City. La malédiction des blessés semble enfin ne pas avoir frappé cette année. C'est aussi bien sûr ce match, la une de l'équipe, qui voit déjà une rencontre riche en spectacle vu le caractère offensif des deux formations. Offensif, lui, il est aussi, mais on est presque surpris de le voir salué à ce point par le journal Le Figaro. Le président américain Joe Biden fête ses 100 jours de mandat aujourd'hui. 100 jours d'une présidence hyperactive, salue le quotidien, qui liste notamment la vaccination et un plan de relance record. La Croix met d'ailleurs en balance les deux plans de relance, l'américain et l'européen, alors que les pays de l'UE discutent en ce moment de la validation finale de leur plan à 750 milliards d'euros. Le décryptage comparatif dans la Croix de ces deux plans records et de leurs conséquences. Outre la relance, il faudra bien finir par rouvrir les commerces et les services. Mais attention, déconfiner territoire par territoire ne sera pas si simple à mettre en place. C'est ce que nous dit de son côté Ouest-France. Pendant que Le Progrès à Lyon s'alarme du flop des autotests, ils ont du mal à trouver leur public. Enfin, le Télégramme, lui, se projette sur les promesses de traitement d'autres maladies que le Covid grâce à l'ARN messager. La technologie contenue dans les nouveaux vaccins pourrait, eh oui, aider à terme à vaincre le sida ou encore certains cancers, c'est-à-dire dans le Télégramme. Les trois histoires qui ont retenu notre attention ce matin, on va donc marcher avec vous, Axel May.
Oui, prolonger sa carrière de footballeur en marchant. C'est un article de Ouest France qui m'a interpellé ce matin. Ouest France qui nous apprend que depuis ce mois-ci, chaque samedi, des séances d'initiation au walking football sont organisées dans un complexe sportif du Morbihan. Ce sport adapté est dédié aux plus de 50 ans. La pratique est née il y a 10 ans en Angleterre où 60 000 joueurs garnissent près de 1200 clubs, rappelle Ouest France. Elle est ensuite apparue il y a 5 ans dans le sud-ouest de la France où résident de nombreux Anglais d'un certain âge.
Et la pratique s'est donc diffusée jusqu'en Bretagne.
Oui, un ancien dirigeant d'entreprise en région parisienne venu s'installer en Bretagne, a notamment installé un club dans le Morbihan. La Fédération française de football en marchant existe et elle compte déjà une trentaine de clubs.
Et on va pouvoir lancer un championnat. Comment ça se passe? Il y a des règles spécifiques?
On ne court pas, c'est-à-dire que l'on doit toujours avoir au moins un pied en contact avec le sol, le walking football, le terme anglais puisque ça vient de là-bas. Les tacles sont interdits, comme les balles hautes pour protéger les cervicales. Alors on joue avec un ballon de foot normal, mais sur un terrain réduit, tout comme la dimension des cages, elle est largement réduite. Chaque équipe se compose en principe d'un gardien qui évolue dans sa zone et de 5 joueurs de champ. Les bénéfices sanitaires de ce sport pour les seniors sont reconnus, explique Ouest France, qu'il s'agisse de lutter contre le taux de cholestérol ou la tension artériel, voilà, le football en marchant.
Pour jouer jusqu'à 90 ans et plus. Merci beaucoup Axel. Axel, Charlotte, est-ce que vous connaissez le raloumi?
Pas du tout.
Alors silence dans ce studio, j'imagine que non.
Le raquois, mais je me suis quand même renseigné et je crois que c'est un fromage.
Exactement, fromage chypriote qui a conquis de nombreuses tables d'apéro, y compris en France depuis quelques années, visiblement pas les vôtres. Mais figurez-vous qu'il pourrait être un élément clé dans la réunification de l'île. La diplomatie du raloumi, c'est à la une de Libération et c'est ce qui m'a tapé dans l'œil ce matin. C'est vrai que Chypre, on ne le sait pas toujours, mais c'est une île qui est coupée en deux. Au nord, la République turque de Chypre du Nord, qui a proclamé son indépendance dans les années 80, et au sud, la République de Chypre, que l'on connaît plus, capitale Nicosie. Les deux sont en conflit ouvert, seule la Turquie a reconnu officiellement la partie nord, mais la Commission européenne espère arriver à les réconcilier ces deux parties grâce donc à ce fromage. Depuis 6 ans, elle a lancé la procédure de reconnaissance en AOP du raloumi, appellation d'origine protégée, ce qui permettrait d'enclencher une forme de réunification parce que ce serait la première fois que les deux parties de l'île se retrouveraient liées par les mêmes normes. Ça permettrait aux producteurs de Chypre du Nord d'exporter leur fromage vers l'UE, ce qu'ils ne peuvent pas faire aujourd'hui. Et ça acterait du même coup le premier accord bilatéral entre les deux parties de l'île. Les démarches avaient été lancées en 2015 par Jean-Claude Juncker, qui était alors président de la Commission européenne. européenne, dans le seul but, hein, avoué, d'enclencher ce rapprochement, une diplomatie du fromage assumée, alors même qu'il n'aime pas du tout le halloumi, Jean-Claude Juncker, et ça, il le disait aussi. Ça a traîné pendant 6 ans, parce qu'Ankara refusait de donner son feu vert. La partie nord de Chypre est vraiment sous la coupe, hein, du régime turc. Mais voilà, Recep Tayyip Erdogan est de plus en plus isolé en Méditerranée, de plus en plus mis sous pression par les Occidentaux depuis l'élection de Joe Biden aux États-Unis. Il a donc fini par faire un geste. Chypre n'est pas encore réunifiée, mais si elle l'est un jour, ça aura peut-être été grâce à ce fromage, la diplomatie du halloumi. C'est-à-dire dans Libération. Charlotte Barrican, on termine avec vous.
Oui, surtout on termine avec le grand vainqueur de la crise du Covid-19, la plateforme Zoom. On a pu en avoir des réunions ennuyeuses et interminables qui bug une fois sur deux où tout le monde est prostré devant son écran, face caméra.
Chacun se reconnaîtra.
C'est ça. Depuis mars 2020, Zoom est l'une des applications les plus téléchargées au monde. Et pour cause, on l'utilise donc tous les jours. Alors évidemment, elle a dû se réinventer. Le site Presse Citron nous apprend que l'application vient de lancer Immersive View, une nouvelle fonctionnalité qui permet d'afficher autrement les participants d'une réunion virtuelle, histoire de rendre les visioconférences un petit peu plus amusantes.
Alors racontez-nous comment ça marche.
Eh bien, plutôt que d'avoir une petite case par participant, tout le monde est aligné, virtuellement évidemment, sur un fond de salle de réunion, de salle de cours ou ce que vous voulez. Il peut y avoir jusqu'à 25 personnes dans le même décor. Mmh. Il est même possible de déplacer les participants où l'on veut sur son écran.
On peut jouer avec quoi.
Voilà, on peut les redimensionner, par exemple, si vous voulez mettre en plus gros la personne qui parle. Mmh. Des fonctionnalités similaires sont aussi développées sur Microsoft Teams. Et dans les prochains mois, d'autres mises à jour sont à prévoir sur les plateformes de visioconférence où l'on risque de passer encore pas mal de temps.
Effectivement.
Imaginez un peu Théo, à terme, Zoom permettra peut-être d'ajouter des décors paradisiaques. Hein. Personnellement, j'ai en tête une plage de sable fin. Ça peut être pas mal pour la conférence de rédaction, non ?
Je m'y vois déjà, je ne sais pas si je serai aussi attentif, mais c'est à quoi séduire en tout cas. Merci Charlotte, merci Axel. Rideau sur le pressing, à tout à l'heure.
Europe 1, Théo Manval.
Et à 5h22, nous sommes à Essé, au sud de Rennes, ce matin, pour Les Doigts dans l'Assiette, où nous attend notre éleveuse Charlotte Kerglonou. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Comment ça va ce matin? Il est un petit peu tôt, hein, il est 5h22. J'espère qu'on ne vous a pas réveillé.
Si, mais c'est comme à chaque fois, mais c'est le bon côté. Du coup, ça montre que tous les agriculteurs ne se lèvent pas toujours
aux aurores
non plus. Hein.
Bon, quel temps il fait en Ille-et-Vilaine ce matin par la fenêtre?
Il fait assez frais. Ouais. Il fait assez frais, mais ça va. Ça s'est un peu réchauffé là ces derniers jours et du coup, l'herbe commence à pousser.
Est-ce que vous faites partie de celles et ceux qui attendent la pluie ou vous avez eu droit à quelques gouttes ces derniers jours?
Non, ça fait presque 3 semaines qu'on n'a pas eu d'eau, mais on avait quand même eu une très grosse averse. Donc, plus.
Vous en manquiez pas trop.
Si on avait eu beaucoup de pluie, mais c'est vrai que si ça pouvait revenir, ça serait bien. Mais avant, il faut qu'on ait un peu de chaleur quand même là.
D'accord. On demandera à Laurent Cabrol tout à l'heure si la chaleur arrive. Vous êtes donc éleveuse laitière en bio depuis 8 ans, vous avez 50 bêtes et vous vouliez nous parler ce matin de l'une de vos vaches javanaises qui traverse, je crois, un moment un peu difficile.
Oui, c'est ça. Je suis en bio que depuis 3 ans.
Depuis 3 ans.
Ça va faire 10 ans que je suis installée cette année. Et oui, en fait, Javanais, c'est une vache qui attend son quatrième veau. Mmh. Et pendant sa lactation, elle a fait un énorme panari. Du coup, c'est une inflammation de la patte et qui, quand même, peut aller très loin. Et du coup, elle arrivait plus du tout à appuyer sur sa patte. Donc, on la soigne d'abord aux huiles essentielles et tout ça, mais là, c'était tellement gros que c'était plus possible. Donc, on a dû arrêter de la traire, l'isoler, la mettre juste à côté de la maison avec un accès dehors, quoi. Mmh. Et puis, le vétérinaire est venu pour intervenir et la soigner, quoi. Et ça a été un épisode hyper traumatisant pour elle, mais en fait, on n'a pas réussi à communiquer. Elle a vraiment cru qu'on lui faisait du mal, donc ça a été assez horrible. Elle a essayé de charger et tout ça. Enfin, elle était très très méchante.
Mmh. Elle a réussi à avoir son veau ou elle l'attend encore?
Et ben voilà. Et du coup, on pouvait plus l'approcher. Elle était très méchante. Et dimanche soir, en fait, elle a fait son veau.
D'accord. Et elle est arrivée toute seule?
Oui, elle est arrivée toute seule, mais je l'ai entendue, en fait. J'étais au téléphone avec une copine et je l'ai entendue. Et du coup, je suis venue surveiller, mais elle s'est débrouillée comme une grande. Je suis juste allée vite fait dans la case parce que le veau, les deux pattes arrière, elles sont encore dans la vache, alors que tout le reste du corps, il est... Et puis, elle était debout, donc du coup, le veau, il est un peu tombé d'un coup. Donc, j'ai voulu aller... bien le mettre pour être sûr qu'il allait bien. Et
alors,
je suis
la maman et le petit veau vont
la
bien
case. Le veau va très bien. C'est une petite femelle que j'ai appelée Salsa. Et en fait, j'ai voulu... le veau partait un peu dans une autre case. Et donc, j'ai voulu juste remettre sa tête bien dans la case. Et là... heureusement que j'étais de l'autre côté, mais elle a donné un gros coup dans la barrière pour me montrer t'as pas intérêt à le toucher, quoi.
Je le protège.
Et en fait, elle avait un côté très... Enfin, du coup, elle était très maternelle, hein, donc elle le léchait beaucoup et tout ça. Et puis, en fait, dès qu'il a commencé à essayer de se lever, elle lui donnait des coups. Et elle l'aurait tué, en fait. Elle l'aurait vraiment tué.
Donc, vous les avez mis à l'écart, vous les avez séparés?
Ben oui, et puis là, on l'a remis parce qu'elle l'appelle quand même, en fait. Donc, on le remet avec sa mère, mais on est obligé de surveiller. Et c'est vraiment bizarre. C'est comme si elle avait été traumatisée et que du coup, tout est une menace. Et même son veau, elle comprend pas, en fait, que c'est pas du tout un danger, quoi. Donc, c'est assez dur comme...
La gestion de la douleur, oui, et des vélages comme ça, ça fait partie du travail d'éleveur et d'éleveuse. Merci beaucoup de nous l'avoir raconté ce matin, en tout cas. Merci beaucoup, Charlotte Carglenou, éleveuse près de Rennes, en Ille-et-Vilaine. Merci d'avoir été avec nous. À très bientôt dans Les Doigts dans l'Assiette.
Tu sais, la vie ne vaut rien si tes yeux ne sont pas dans les miens. Oh, j'ai du mal à faire le lien. Je deviens pâle sans tes mains. Oh, j'aimerais tout donner pour toi. Je te donne mon corps et puis ma voix. Oh, je pourrais tout voler, je crois. Je t'offre mon âme. Puis ma joie. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime plus que tu m'aimes. Je t'aime, comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras ce que veulent dire les gens qui vivent imprudemment? Je t'aime sans la raison. Je t'aime à rendre compte. Je t'aime. Tu pourrais être mon grand chagrin. À chaque plaie, j'aurais le médecin. Je t'offrirais mes deux reins. Oh, je pourrais tout brûler pour toi. Pour qu'enfin il ne reste que moi. Oh, je pourrais même casser. De toute façon, je ne crois qu'en toi. Je t'aime, comment on fait?
Et même après, je t'aimerais, c'était la talentueuse Oshi sur Europe 1, 5h29. À Laurent Cabrol, ça se charge au-dessus de nos têtes en ce mercredi.
C'est vrai, le ciel est très nuageux à l'heure où nous parlons et nous aurons dans la journée un temps pas folichon du tout avec à la fois de la pluie, des orages, des averses assez musclées et puis souvent des nuages bien sûr. Les seules régions un peu à l'abri seront celles qui sont proches de l'Atlantique, à l'abri aussi les régions proches des frontières du Nord et du Nord-Est, mais dans l'ensemble c'est pas une journée terrible. Les températures actuelles se situent entre -1 dans les Ardennes, 0 dans l'Oise et le Calvados avec ses froids. Hein. Et puis 8 à Paris, 10 à Bordeaux, 11 à Marseille et Lyon à l'heure où nous parlons. Dans le courant de la journée, le thermomètre s'établira entre 14 et 21 degrés. Dans la capitale, 21 degrés. Vous voyez qu'elles vont bien remonter les températures sur Paris. Et nous aurons 14 degrés du côté de Caen. La moyenne nationale se situera entre 17 et 19.
Eh ben c'est pas mal. Merci Laurent Cabrol. À tout à l'heure.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Merci d'avoir choisi Europe. Tout de suite, un nouveau journal avec Marion Calais. Bonjour Marion.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Il est 5h30.
Le club est plus respecté. Quand les gens parlent du PSG maintenant, ils savent qu'on fait partie des 4, 5, 6 meilleures équipes d'Europe.
Le PSG installé parmi les grands d'Europe pour Neymar. Demi-finale aller de la Ligue des Champions ce soir contre Manchester City. 3 mois de prison avec sursis, peine prononcée hier soir à l'encontre des organisateurs d'une fête sauvage à Lyon le mois dernier. Dans ce journal aussi, Joe Biden à la veille des 100 jours à la Maison Blanche. Et Atlanta contre Ajaccio, ce n'est pas un match de foot, mais une guerre commerciale entre Coca-Cola et un vin corse pétillant.
Dans 10 minutes, comment aider les jeunes gagnés par la boulimie ou l'anorexie face au grand stress de la période actuelle? La pédopsychiatre Marie-Rose Moreau vient nous donner des pistes. Ces troubles de l'alimentation ont augmenté de 30%. Très bon réveil, merci d'être avec nous. Il est 5h31.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Finaliste l'an dernier, tombeur cette saison des géants barcelonais et munichois. Le PSG ne se cache plus en Ligue des Champions. Les joueurs de la capitale opposés à Manchester City ce soir.
Des Parisiens confiants et qui doivent assumer désormais un statut de favori, Julien Froment.
Oui, et ça se matérialise par l'extrême sérénité de l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino.
On est très relax et on a confiance en nos qualités.
Il faut dire que le Paris Saint-Germain a changé d'envergure. La finale de l'an passé à Lisbonne, les éliminations cette saison de Barcelone et du Bayern, deux mastodontes européens, ils sont forcément pour beaucoup. La superstar brésilienne Neymar, au club depuis 4 ans, ressent ce changement de statut.
Le club est plus respecté. Quand les gens parlent du PSG maintenant, ils savent qu'on fait partie des 4, 5, 6 meilleures équipes d'Europe. Paris a désormais obtenu plus de reconnaissance et c'est mérité. Notre équipe est très forte et c'est d'ailleurs la deuxième année de suite que nous sommes parmi les 4 meilleures équipes de la Ligue des Champions.
Alors le match de ce soir, ça reste un immense défi pour le Paris Saint-Germain car Manchester City est un adversaire redoutable, invaincu en Ligue des Champions, un entraîneur de génie à sa tête, Pep Guardiola, des joueurs talentueux à chaque ligne. Mais Paris a su jusque-là négocier avec brio tous les cols hors catégorie qui se sont dressés face à lui cette saison en Coupe d'Europe.
Et ce match, Julien, vous nous le ferez vivre ce soir en direct sur Europe 1, émission spéciale dès 20h, coup d'envoi à 21h. Hier, Chelsea et le Real Madrid ont fait match nul partout. Le Real parvenu à remonter au score grâce à un but de Karim Benzema.
C'était le 30 mars dernier sur les quais de Saône à Lyon. Plus de 300 personnes rassemblées pour une fête sauvage. Elle a fini hier devant le tribunal correctionnel de la ville.
Oui, avec le procès des organisateurs du rassemblement. Deux frères jugés pour mise en danger de la vie d'autrui et non-respect des mesures sanitaires. Ils ont été condamnés à 3 mois de prison avec sursis. Récit d'audience avec le correspondant d'Europe 1, Jean-Luc Boujon.
À la barre, Léo et Arthur, 23 et 26 ans, font plutôt profil bas. Les deux frères, deux étudiants, l'un est élève ingénieur, l'autre suit une formation dans les métiers du spectacle, expliquent qu'ils voulaient simplement réunir quelques amis sur les quais de Saône, mais qu'ils ont rapidement été débordés par l'afflux de jeunes attirés par la musique. Une explication qui n'a pas franchement convaincu les juges. Quand on veut inviter ses amis, on ne poste pas un tel message sur Instagram. Apéro sonore sur les quais de Saône en fin de journée. On espère vous voir nombreux pour profiter des dernières lueurs du jour. On installe pas non plus deux enceintes ultra puissantes au bord de l'eau, ont poursuivi les magistrats qui ont dénoncé un acte irresponsable et immoral. Avant de condamner les deux jeunes gens à 3 mois de prison avec sursis, un jugement très sévère pour maître Mélanie Sansari, leur avocate.
On a affaire à une justice de l'exemple. Les questions du procureur étaient très basées sur la morale. C'était un petit peu déplacé, on fait du droit. C'est une décision qui est sévère, notamment au regard de la personnalité de mes clients. On a essayé de faire croire qu'ils avaient voulu aller à l'encontre de la loi, alors qu'en réalité, pas du tout, ils se sont rendus et ont voulu assumer leurs responsabilités.
Voilà l'avocate qui avait demandé un peu de clémence pour des jeunes qui n'en peuvent plus des restrictions. Ignore encore si elle fera appel de ces décisions.
Et Lyon,
Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et devant des étudiantes, justement, hier, le Premier ministre Jean Castex a appelé les jeunes à tenir. Il faut penser, a-t-il dit, à l'avenir.
À l'avenir que prépare Emmanuel Macron. Nouveau conseil de défense sanitaire ce matin et il y sera question du déconfinement.
Un sujet évoqué dès hier à l'Élysée lors d'une visioconférence réunissant le président de la République et une dizaine de maires. Le chef de l'État qui a notamment notamment plaidé pour une ouverture de la vaccination aux personnes de moins de 55 ans en surpoids, et ce alors que 220 000 créneaux restent vacants dans les vaccinodromes. Concernant la vaccination, justement, cette étude présentée au Royaume-Uni comme la plus complète jamais menée en conditions réelles, 57 000 personnes suivies. Résultat, une seule dose de vaccin Pfizer ou AstraZeneca permet de réduire quasiment de moitié la transmission du virus au sein d'un ménage.
5h35 sur Europe 1, la politique à présent et les candidats qui se mettent en ordre de bataille à moins de 2 mois maintenant des élections régionales.
En PACA, le sortant LR, Renaud Muselier, a fait officiellement acte de candidature hier soir. En Ile-de-France, les marcheurs, eux, ont présenté leur liste hier, forte de plusieurs membres du gouvernement pour Europe 1. Claudia Bertram.
Pas moins de 4 ministres montent au front. Marlène Schiappa, Amélie de Montchalin, Emmanuel Wargon et Nathalie Elimas. Le marcheur tête de liste Laurent Saint-Martin admet son déficit de notoriété mais réfute le côté casting.
Les 4 membres du gouvernement sont tous là pour leur savoir-faire politique et pour leur expertise de dossier. Et pas pour autre chose.
Marlène Schiappa, la ministre chargée de la citoyenneté et chef de file à Paris, malgré la débâcle des marcheurs lors des municipales l'année dernière, elle se veut confiante.
C'est vrai que les élections municipales à Paris n'ont pas été un succès pour La République En Marche, mais justement, nous voulons remonter à cheval, revenir sur le ring, nous rassembler.
Le collectif est solide, martèle un dirigeant macroniste, même si le combat s'annonce dur. La présidente sortante de la région, Valérie Pécresse, fait la course largement en tête dans les sondages. Un ministre l'admet, on a un vrai sujet en Ile-de-France, car on a le même électorat qu'elle. Et pas seulement, puisqu'une partie du Modem a choisi de continuer à travailler avec Valérie Pécresse. La ministre centriste Nathalie Elimas est donc censée montrer que les vrais Modem, eux, sont aux côtés du gouvernement. La Macronie ne joue donc pas vraiment la gagne. Un marcheur le résume ainsi. On peut être faiseur de roi ou de reine.
Une surveillance pouvant aller jusqu'à 5 ans à leur sortie de prison. L'encadrement de la sortie de certains détenus condamnés pour terrorisme au menu d'un projet de loi porté par les ministres de l'Intérieur et de la Justice. Le texte sera présenté ce matin au Conseil des ministres. Un discours devant le Congrès ce mercredi pour vanter sa stratégie de relance. Joe Biden devant les parlementaires américains à la veille de son 100e jour à la Maison-Blanche.
Surnommé Joe l'endormi pendant la campagne, le démocrate a surpris en imposant un rythme soutenu à son début de mandat, parvenant même à convaincre hors de son électorat de base. Alexis Guilleux l'a constaté à New York pour Europe 1.
Depuis 3 mois, le sentiment dominant à New York, c'est le soulagement. Rod est retraité et se considère de centre-droit. C'est certain, je le préfère à Donald Trump. C'est un président que l'on peut respecter, même si je suis de droite. D'une certaine manière, il a redoré la réputation des États-Unis. Et s'il y a une réussite de ce début de mandat qui revient dans la bouche des New-Yorkais, c'est bien entendu la vaccination. 215 millions de doses en 100 jours. Lori est une électrice indépendante. Elle salue le discours de Joe Biden sur la pandémie. Au moins, lui, on peut dire qu'il croit à l'existence du Covid, qu'il faut que les gens portent des masques et se fassent vacciner. Donc, c'est plutôt positif d'entendre ses propos venir d'en haut. Et puis, Joe Biden, il réussit même à étonner certains des démocrates les plus convaincus, comme Brian, qui sort de Central Park sur son vélo. Je ne pensais pas que le président serait autant progressiste. Je suis surpris positivement par la réforme des infrastructures, la politique sociale. Il ajoute plein d'espoir pour le futur. Joe Biden est doué pour rassurer, pour faire comprendre qu'il défend toute l'Amérique. Mais selon Aaron, démocrate également, Joe Biden n'incarne pas l'avenir. Même s'il va dans la bonne direction, vu son âge, il estime que le président ne fera qu'un seul mandat.
Voilà, à New York, Alexis Guilleux pour Europe 1. Les États-Unis qui ont rappelé hier leur personnel non essentiel en poste à Kaboul, mettant en avant des menaces alors que les soldats américains se préparent à quitter le pays d'ici le 11 septembre prochain.
Enfin, on termine avec cette histoire qui risque de vous en apprendre beaucoup sur une fameuse boisson noire pétillante et très sucrée. Coca-Cola en guerre contre une petite marque corse.
Le Coca Mariani, accusé par la firme d'Atlanta d'entretenir une forme de confusion autour de cette boisson. Explication pour Europe 1 de Carole Ferry.
Toute la question aujourd'hui est de savoir si la recette secrète du Coca-Cola ne serait pas née en France. Et oui, parce que le Coca Mariani a bien existé avant le fameux soda américain dès 1863. Il s'agissait de feuilles de coca macérées dans du vin de Bordeaux. La boisson devient à l'époque mondialement connue, vantée pour ses vertus thérapeutiques, bue par des papes, des rois. Le président actuel de l'entreprise, Christophe Mariani, assure même que le Coca-Cola est né de ce vin pétillant français.
On était là 25 ans avant eux. En 1885, John Pemberton, qui est un Américain et préparateur en pharmacie, décide de vouloir copier donc ce vin tonic Mariani en créant le French Wine Coca. Fin des années 1885, il y a la prohibition. Et c'est là qu'il est obligé, John Pemberton, de changer sa formule, d'enlever le vin et de créer la boisson qu'on connaît aujourd'hui qui s'appelle Coca-Cola, tout simplement.
Coca-Cola, de son côté, ne souhaite pas faire de commentaires. Le dossier est actuellement entre les mains de l'Office européen de la propriété intellectuelle. La guerre des marques, en tout cas, est bien ouverte entre la Corse et les Américains.
Et on suivra ça
c'est
avec
appétit. C'est presque une guerre de succession, génial. Effectivement. Merci beaucoup Marion Calais, il est 5h40. Place aux courses avec Thierry Léger. Bonjour Thierry, quels sont vos pronostics ?
Direction l'ouest de la France, à Mort-de-Bretagne, dans l'Ille-et-Vilaine, pour ce quintet, la quatrième étape du Grand National du Trot. Et parmi les 16 partants, je n'ai pas hésité à faire confiance au numéro 4, Epson d'Air Frais, et 15, Décoloration. Entraîné tous les deux par Jean-Michel Baudouin, le régional de l'étape, puisqu'il est installé dans ce département à Billet précisément, et nul doute que ce professionnel aura tout mis en œuvre pour amener ses deux pensionnaires fin prêts pour cet objectif visé de longue date. L'opposition sera constituée des numéros 7 Forum Mélois, d'une régularité de métronome, ayant engrangé pas moins de 150 000 euros lors de ses 10 dernières courses, mais aussi Crack Money, le numéro 6, sur le bon chemin, après avoir été victime l'été dernier d'une pyroplasmose, une maladie parasitaire. Enfin les numéros 1, Euro Duchesne, 10, Degana Ouida, 16, Belle Louise Mabon et 3, Philou Levernier, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 4, 15, 7, 6, As, 10, 16 et 3.
C'est bien noté, merci Thierry Léger. On retrouve tous vos pronostics sur Europe1.fr.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
À 5h41, j'accueille à présent la première invitée de ce 5-7. Bonjour Marie-Rose Moreau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, psychanalyste, pédopsychiatre. Vous dirigez notamment la maison de Solène, maison des adolescents de l'hôpital Cochin à Paris. C'est une autre vague qui monte et dont on parle très peu, mais qui est liée à la pandémie de Covid. Les troubles alimentaires, boulimie, anorexie, sont en forte augmentation. Plus un tiers de patients depuis un an. Et vous voyez arriver dans vos unités spécialisées beaucoup, beaucoup de jeunes adultes.
Alors oui, c'est un fait. Les troubles du comportement alimentaire ont énormément augmenté. Alors, réellement, dès le début de la première épidémie, enfin du premier confinement, il y a maintenant un peu plus d'un an, on a commencé à voir arriver ces troubles du comportement alimentaire. Mais alors, au sortir de la deuxième vague, par exemple, on a vu arriver des situations qui s'étaient détériorées pendant des mois à la maison. Et on peut vraiment parler d'une difficulté majeure qui touche les grands adolescents et adultes jeunes dans cette période-là de passage. Et effectivement, la nourriture et le rapport à la nourriture a changé avec beaucoup de difficultés pour sortir, pour faire du sport, pour se dépenser, et donc une sorte de dérégulation.
C'est un marqueur très fort de l'anxiété, la façon dont on s'alimente ou dont on ne s'alimente plus. Pourquoi est-ce que ça se traduit autant sur ce terrain-là ?
Oui, alors c'est bien sûr, c'est un facteur, on pourrait dire non spécifique. C'est un facteur, il y a un facteur de dès qu'il y a un stress, dès qu'il y a quelque chose d'inquiétant, dès qu'il y a de l'insécurité, une des manières de réagir face à cette question, c'est au fond de se consoler ou de contrôler sa nourriture. En fait, c'est le même mécanisme, hein, mais c'est une sorte de, on sent que tout nous échappe, que plus rien n'est comme avant, et on essaye de se rattacher à qu'est-ce qui nous reste, le corps, le rapport à la nourriture. Et donc effectivement, comme vous le disiez également, en soit on contrôle, et là c'est l'anorexie, soit on se laisse aller, on se console, on laisse d'une certaine façon ces impulsions, on n'arrive pas à contrôler, c'est trop difficile, et là c'est des comportements boulimiques. Les deux sont aussi inquiétants, et en réalité les deux sont la même phase de la même difficulté. Souvent l'anorexie nous inquiète plus que la boulimie, mais en réalité c'est le même processus psychologique, et il doit nous inquiéter parce que c'est vraiment, ça montre qu'au fond les rythmes, la sécurité de base, la relation de base entre la personne, son corps et le monde est modifiée et transformée.
Et ça crée des situations très préoccupantes, plus 30% donc de patients dans la plupart des services spécialisés. Il y a des listes d'attente aujourd'hui pour des hospitalisations de plus de 6 mois en Île-de-France par exemple, alors que ce sont des jeunes qui auraient besoin d'une aide maintenant, Marie-Rose Moreau.
Oui, c'est vrai, l'attente est trop longue. En fait, on essaye d'inventer des manières de faire Parce que tous les troubles du comportement alimentaire n'ont pas besoin d'être hospitalisés. Hein. Même lorsqu'ils sont graves, en réalité, on hospitalise peut-être 8% de ces troubles du comportement alimentaire qu'on voit actuellement. C'est ce qu'on avait dans une enquête récente. Mais donc, vous voyez, c'est une toute petite partie, mais ces 8% ont vraiment besoin d'être hospitalisés et on les fait attendre trop longtemps. Et puis, tous les autres, il faut trouver des manières de les prendre en charge, soit dans un hôpital de jour, soit en consultation pluridisciplinaire très rapprochée. Vous voyez, un psychiatre, un médecin de l'adolescent, un diététicien, parfois un psychomoteur, enfin un psychomotricien, pardon. En fonction, on analyse la situation. Il y a la thérapie avec la famille aussi qui est essentielle, hein, parce qu'en fait, les troubles du comportement alimentaire, ils touchent une personne, mais souvent, c'est aussi les relations entre cette personne et puis l'ensemble de sa famille, en fait. Et donc, c'est prouvé maintenant, d'ailleurs, depuis plusieurs années, que les prises en charge familiales sont extrêmement efficaces. Mais en fait, à ce moment-là, c'est comme si la famille nous aidait à trouver des solutions pour le plus fragile d'entre eux qui n'a pas pu trouver lui-même une manière de faire avec cette nourriture.
Pour donner un ordre de grandeur, on estime qu'environ 600 000 adolescents et jeunes adultes sont touchés par ces problèmes alimentaires aujourd'hui en France, principalement des jeunes femmes. Vous venez de parler du rôle de la famille, de l'entourage. Comment est-ce qu'on peut les aider, justement ?
Alors, il faut analyser la situation, comme je l'ai dit, individuellement, mais aussi qu'est-ce qu'il y a comme ressources autour de cette personne et qu'est-ce qu'il y a aussi comme investissement, qu'est-ce qui est important pour elle. Et puis, une fois qu'on a bien analysé avec cette jeune femme ou ce jeune homme la situation, on va faire un projet et on va voir progressivement ce qui est acceptable, hein, parce qu'il y a des choses qui doivent être souvent négociées. Donc, on analyse l'ensemble de cette situation et on fait un projet individuel avec sa famille. On regarde aussi comment on peut l'aider sur le plan de ses investissements scolaires ou universitaires. C'est-à-dire qu'on va essayer de rétablir un équilibre dans l'ensemble de sa vie pour que cette nourriture ne soit plus déjà une obsession, hein, parce que c'est une sorte d'obsession, ce contrôle de la nourriture. Et puis pour que on augmente le bien-être, parce que c'est un signe de mal-être évident, hein, l'anorexie ou la boulimie.
Un dernier mot, qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes-là qui commenceraient à ressentir ce mal-être ou ces troubles-là et qui nous écouteraient peut-être ce matin ?
Oui, alors il y a deux choses à leur dire d'important. Premièrement, c'est fréquent, ça peut arriver, ça s'exprime de tas de manières, donc ne nions pas la difficulté, faisons quelque chose. Il y a plein de choses à faire. Les premières choses sont des choses simples. On va demander un conseil à une diététicienne. On va aller consulter un médecin généraliste. On va en discuter avec des groupes. Ça, c'est des choses simples qu'on peut faire presque tout seul ou avec l'aide de sa famille. Et puis, le deuxième niveau, c'est que au bout d'un moment, si on ne fait rien, là, on pourra plus même être capable soi-même de se soigner. Donc là, il faut vraiment l'aide d'équipes et d'équipes spécialisées, d'équipes de médecine de l'adolescent, de pédopsychiatrie. Et là, souvent, la famille doit intervenir. La famille doit dire, attention, c'est comme si... quand j'ai une maladie grave, ma famille, elle m'emmène, elle m'aide, elle fait en sorte que je me soigne. Mais là, c'est pareil. Ça peut prendre plusieurs mois, mais c'est possible d'en sortir, c'est possible d'en guérir dans la grande majorité des cas. Et donc, il faut accepter ce soin et il faut savoir vraiment qu'on a des modalités très efficaces de soins.
Et on va donner quelques numéros d'aide, justement, je pense au Fil Santé Jeune, cellule d'écoute anonyme et gratuite tous les jours de 8h à minuit, 01 44 93 30 74. Le site soutien-étudiant.info aussi qui recense toutes les lignes de soutien psychologique gratuites partout en France. Merci beaucoup Marie-Rose Moreau.
Merci.
Pédopsychiatre, directrice de la Maison des Adolescents à l'hôpital Cochin à Paris. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée.
Europe 1.
5h49, l'heure de mettre en lumière celles et ceux qui font bouger la France avec vous. Axel May, vous nous proposez de rêver ce matin ?
Oui, on va aller dans l'Hérault à la rencontre d'une ancienne joueuse de tennis qui a lancé une plateforme internet sportive de rêve pour que les amateurs puissent rencontrer leur idole, mais aussi pour aider les futurs sportifs professionnels à débuter leur carrière.
Les Français ont des idées, on vous le montre dans une minute. À tout de suite.
Théo Manu. Fabienne Val vous informe sur Europe 1.
L'essentiel à 6h10. Les pistes d'Emmanuel Macron pour la levée des restrictions. Couvre-feu à 19h jusqu'à la mi-mai, puis allègement d'ici l'été. Dans le même temps, 3 à 4 phases de déconfinement à partir du mois prochain. Piste évoquée hier par le chef de l'État lors d'une réunion en visioconférence avec des maires. 7 membres de la direction de la fonderie de Bretagne retenus jusque tard dans la soirée par des salariés en colère. Ils dénoncent la décision du constructeur automobile Renault de vendre le site. 21h ce soir, PSG Manchester City, demi-finale aller de la Ligue des Champions. Un match à suivre en direct et en intégralité dès 20h sur Europe 1.
Europe 1, Théo Manval.
La France bouge, les Français ont des idées. Ce matin, Axel May, vous nous emmenez à la découverte d'une plateforme digitale qui fait rêver.
Oui, ou plutôt deux plateformes, deux sites internet qui communiquent entre eux. Alors l'un s'appelle Sportif de rêve, c'est une plateforme de mise en relation entre sportifs amateurs ou chefs d'entreprise et sportifs professionnels de haut niveau, moyennant finance hein, bien sûr. En s'inscrivant sur le site, vous pouvez choisir parmi une cinquantaine de noms, la plateforme n'en est qu'à ses débuts. Alors un athlète pour passer un moment avec lui, que ce soit lors d'une visioconférence, d'un séminaire pour un temps de partage, d'expérience. Parmi les personnalités déjà inscrites, vous avez Luka Karabatic, le handballeur, l'ancien rugbyman Jean-Baptiste Elissalde, l'ex-numéro 1 mondial et surtout vainqueur de Wimbledon, Marion Bartoli. Une quinzaine de sportifs de sport sont représentés, dont le handisport et puis le e-sport est en approche.
Et vous le disiez, une autre plateforme a été lancée.
Rêve de sportif. Là, je vous parlais de sportif de rêve. L'autre, c'est Rêve de sportif qui vise, elle, à aider le jeune sportif de haut niveau à le soutenir financièrement, notamment quand il débute sa carrière. Séverine Beltrame, ex 34e joueuse mondiale, nous explique depuis l'Hérault où elle habite l'effet vase communicant entre ces deux plateformes que l'ancienne joueuse de tennis vient donc de lancer.
Sportif de rêve et donc rêve de sportif sont étroitement liés. Chaque sportif de rêve qui réalise une prestation sur la plateforme, donc qui rencontre un passionné de sport, un sportif amateur, que ce soit un particulier ou un chef d'entreprise, une partie de cette prestation est reversée au développement de rêves de sportifs. Donc il y a vraiment un lien fort et solidaire entre les deux.
Séverine Beltrame raconte qu'elle a débuté le tennis, elle, tardivement, 11 ans. Et ce n'est qu'après ses études de droit qu'elle s'est consacrée au tennis jusqu'à atteindre en 2006 le top 35 avec un quart de finale à la clé, quart de finale à Wimbledon. Et puis cette idée de plateforme sportive de rêve de sportif lui trottait dans la tête depuis un moment. Et c'est le confinement qui l'a incité à passer à l'acte, entre guillemets, à concrétiser ce projet.
Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir ces deux sites. Merci beaucoup. Axel, vous partagez vous aussi vos bonnes idées, vos initiatives. Vous nous écrivez sur les réseaux sociaux, hashtag Europe 1. Et la France bouge aussi sur le web. Charlotte Barrican, qu'est-ce qui anime les réseaux sociaux?
Alors Théo, est-ce que vous êtes déjà allé dans le Gers?
Pas encore, figurez-vous.
Mais écoutez, moi non plus, et il m'a suffi d'un tout petit coup d'œil sur le compte Instagram du département pour avoir envie d'y aller. C'est le compte @gers le département, tout attaché. Il cartonne depuis le premier confinement, plus de 14 000 abonnés au compteur. Il est géré par la collectivité elle-même et cela fait 3 mois consécutifs qu'il est en tête dans le classement des collectivités les plus performantes sur la plateforme.
Alors qu'est-ce qu'on trouve sur ce compte, Charlotte?
Majoritairement, ce sont des photos de paysages. Ce compte est une sorte de guide touristique nouvelle génération. On visite des petits villages comme Fourcès, compté parmi les plus beaux villages de France. On découvre aussi les pépites du département comme le moulin de Durban, qui est un des rares moulins de la région à encore fabriquer de la farine. Tous les jours, le compte poste des photos prises par les habitants ou même par des professionnels de la photographie de passage dans la région.
Alors, passer par les réseaux sociaux, c'est un peu la nouvelle stratégie du département pour dynamiser le tourisme en cette période un peu compliqué ?
Tout à fait, et cette stratégie passe aussi par l'interaction avec le public. Très régulièrement, le compte poste ce que l'on appelle des stories, des postes disponibles 24 heures, en donnant les grandes lignes de l'actualité du département. Il organise aussi des jeux concours avec plein de cadeaux à gagner, des bouteilles de vin de la région, des produits du terroir. Et le plus gros succès était avec le concours de la Saint-Valentin, presque 1000 participants et à la clé, deux coffrets de produits de beauté à gagner, fabrication 100% artisanale. La présence du Gers sur les réseaux sociaux ne se limite pas à Instagram. On le retrouve aussi sur Facebook et TikTok.
Le Gers sur TikTok.
Ok,
on ira voir.
Depuis quelques mois, les réseaux sociaux sont du pain béni pour les collectivités. Le Calvados et les Bouches-du-Rhône s'y sont mis aussi. C'est pour eux l'occasion de toucher un public plus jeune.
On va aller checker le Gers sur TikTok. Merci beaucoup, Charlotte Barrican. Il est 6h05.
Europe 1. Théo Manval.
Du Gers à notre planète à présent. Bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Théo, bonjour à tous.
Vous nous dites ce matin qu'un collectif de start-up françaises signe une tribune et décide de volontairement se contraindre à baisser leurs émissions de CO2.
C'est assez inédit, 106 startups françaises se déclarent aujourd'hui prêtes à s'auto-contraindre et dénoncent par la même occasion la législation qui permet encore à des jeunes entreprises de chercher à maximiser leur croissance sans avoir en aucun cas à se soucier de leur empreinte carbone. Ces 106 entreprises joignent aussi l'acte à la parole puisqu'elles signent par cette tribune l'engagement de réaliser leur bilan carbone, c'est-à-dire de quantifier précisément leurs émissions. Les signataires demandent que leurs engagements volontaires soient transformés en exigence légale pour s'assurer que les nouvelles générations d'entreprises adoptent de meilleures habitudes.
Et alors, que dit la législation en place justement sur le bilan carbone des entreprises ?
Eh bien, figurez-vous que seules les entreprises qui ont plus de 500 salariés sont réellement obligées d'évaluer leur activité. Et cela ne représente que 5% des entreprises françaises. C'est peu en nombre, mais aussi en rigueur. Car le système actuel de comptabilité permet de faire l'impasse sur les émissions liées au transport des marchandises, aux déplacements professionnels ou encore sur la gestion des déchets. Les signataires de cette tribune, baptisée Climate Act, rappellent aussi qu'en plus d'être un outil indispensable à la transition écologique, le bilan carbone est plus utile lorsqu'il est réalisé tôt. C'est-à-dire qu'une fois que les pratiques polluantes d'une entreprise sont installées, il est à la fois coûteux et compliqué pour elle de faire machine arrière et de se restructurer.
Effectivement, c'est donc une occasion pour les signataires, Fanny, de lancer un défi à toutes les entreprises.
C'est ça, pour que désormais la transparence sur les émissions des entreprises soit totale, puisqu'aujourd'hui, seuls 39% des entreprises françaises soumettent un bilan carbone, contre 70% aux États-Unis ou encore 80% en Afrique du Sud. On est donc en France clairement à la traîne, et surtout, le cadre légal français est très particulier sur ce sujet. Alors que la plupart des pays ont choisi d'imposer des bilans carbone aux entreprises selon des seuils de pollution ou des secteurs d'activité, la France est la seule membre du G20, avec l'Angleterre, à avoir opté pour une approche qui ne concerne que les entreprises d'une certaine taille. Il est donc extrêmement positif de voir aujourd'hui que les investisseurs les plus verts commencent à exiger une transparence accrue des entreprises sur leur impact écologique. Une rigueur qu'il serait temps d'adopter, car les politiques d'incitation manquent systématiquement leur cible.
Et on le note, et on espère que ça fonctionnera effectivement pour plus tard. Merci Fanny, on vous retrouve demain.
Europe Matin, le 5-7. Théo Manval.
Bienvenue à vous tous. Si vous nous rejoignez au réveil, il est presque 6h en ce mercredi 28 avril.
On a des doses, mais on n'a pas assez de personnes éligibles pour se faire vacciner. Alors on les a attendues très très longtemps, ces doses-là. Et puis maintenant on va les avoir, mais on n'aura plus personne à vacciner.
Des créneaux qu'on a du mal à remplir dans certains grands vaccinodromes, signe qu'on a de plus en plus de doses et que la campagne s'accélère. Mais y a-t-il un risque de sur-régime ? Le patron de Doctolib sera avec nous à 6h40. Il va nous dévoiler ses chiffres, ses projections pour les mois qui viennent en exclusivité. Avant cela, à 6h20, plongée avec mon invité inattendu dans l'univers d'un roman culte qui fête en ce moment ses 30 ans. American Psycho de Bret Easton Ellis va être adapté en série après avoir fait un carton au cinéma au début des années 2000. Et puis comme tous les jours, à 6h25, notre respiration musicale. Grace Jones dans la partition d'Amblin Roche. Rendez-vous dans 25 minutes.